héritier par la grâce de Dieu. Et c'est ces trois mots, esclave, fils et héritier, qui ont attiré mon attention depuis un petit moment. Et j'aimerais vous parler de ça ce matin. Alors, ce sera nos trois points. Esclave, on va parler un petit peu de ce que c'est, fils et puis héritier. Il n'y en a pas un qui est mauvais par rapport aux autres. On n'est pas juste l'un des trois. C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne et dans notre relation avec Dieu, on va avoir ces trois identités qui vont se vivre à certains moments et se mélanger. Peut-être à certains moments, il y a une de ces trois identités qui va prendre le devant. Et ce qui va poser problème, c'est si on garde qu'une seule des trois, en fait. Dans ces trois mots, il y a une vérité sur qui on est par rapport à Dieu et sur qui Dieu est par rapport à nous. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Alors, on va commencer avec le premier mot, donc esclave, qui est un mot qui nous fait un petit peu peur quand même. Alors, qu'est-ce que c'est un esclave? Alors, esclave, ça peut être un peu violent, mais dans la Bible, en fait, ça parlait aussi juste du serviteur, ça parlait des gens qui travaillaient pour d'autres. Il y avait bien sûr cette dimension de l'esclavage qui était présente à l'époque, mais ça exprime qu'on sert un maître qui est supérieur à nous en autorité. Alors, du coup, mon premier point, c'est ça, c'est esclave, et puis entre parenthèses, j'ai mis prisonnier, parce qu'en général, l'esclave, s'il avait le choix, il préférerait partir, mais soit en fait, il avait été capturé dans un pays étranger, par exemple, et donc dans ce cas-là, il avait été ramené dans le pays qui l'avait attaqué, et il devait servir quelqu'un dans ce pays, il était obligé. Soit la Bible nous parle aussi de ces personnes qui devaient se vendre comme esclaves parce qu'elles n'avaient plus de moyens financiers. Et là aussi, même si c'était un choix au départ parce qu'il fallait bien vivre et manger et continuer à pourvoir ses besoins, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment vécu volontairement. Qu'est-ce que c'est un esclave? La Bible, elle nous donne une définition dans 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 19. Elle nous dit que tout homme, toute femme, tout être humain est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus d'esclavage au sens typique, même s'il y a des pays, il y a des endroits aussi où il y a encore des êtres humains qui sont vendus comme esclaves, où c'est quelque chose pour lequel aussi on peut se battre en tant que chrétien, que ça puisse cesser. Dans nos cœurs aussi, on est un petit peu, on peut être esclave de plein de choses. Finalement, tout ce qui a triomphé de nous, ça nous rend esclaves. Alors, j'ai trois petites choses dans mon expérience personnelle que je peux partager, des choses dont j'ai déjà été esclave. La première chose, c'est la peur. Vous chantez peut-être ce chant que j'aime beaucoup, qui dit qu'on n'est plus esclave de la peur. En fait, c'est parce qu'on peut vraiment l'être. Et dans 2 Timothée, au chapitre 1, on voit que Paul va nous exhorter en disant « Mais Dieu nous a pas donné un esprit qui fait de nous des lâches, un esprit de peur, un esprit de crainte. Il nous a donné un esprit qui va nous donner de la force, de l'amour et de la sagesse, qui nous rend forts, aimants et réfléchis. » Moi, j'ai grandi avec cet esprit de peur. Et j'insiste sur le mot « esprit », c'est-à-dire qu'il y a des émotions et des sentiments de peur. Mon petit garçon, en ce moment, il commence ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Vous savez, quand il se réveille, qu'il fait des cauchemars et qu'il a peur et tout ça. Donc, c'est une période de la vie d'un enfant. Ça, c'est plutôt un sentiment, c'est quelque chose qu'il va ressentir. Il y a son vécu émotionnel intérieur qui est en train de se construire avec ça. Mais la peur, c'est pas juste un sentiment, ça peut être aussi vraiment un esprit, c'est-à-dire quelque chose qui est envoyé spécialement pour nous faire du mal. Et moi, quand j'étais enfant, je me souviens très bien d'avoir vécu avec cet esprit-là à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une autre personne à l'intérieur de moi. J'ai grandi avec vraiment cette peur de tout et de toutes les choses, de tout ce qui pourrait arriver de mal. J'étais le petit garçon dans la cour de récréation qui s'asseyait en fait dans un coin de la cour, pas trop près des maîtresses pour qu'elles ne me demandent pas d'aller jouer avec les autres, mais pas trop loin au cas où il se passait quelque chose. Et mes récréations de maternelle, c'était juste ça, je m'asseyais par terre et j'attendais que ça passe en regardant les autres vivre. Et c'est quelque chose que le Seigneur a dû adresser dans mon cœur, parce qu'il y avait vraiment cette dimension spirituelle de la peur qui oppressait tout ce que je vivais, en fait, qui m'empêchait de prendre des décisions, d'oser, d'aller à la rencontre des autres, de me mettre des fois en danger, de sortir de ma zone de confort. Et donc Dieu veut nous libérer de l'esclavage de la peur, et c'est quelque chose qu'il fait au travers de ce que Christ a accompli. La deuxième chose dont on peut être esclave, bien sûr, c'est le péché. On peut lire ça dans Jean au chapitre 8, c'est Jésus qui explique ça, qui dit « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est comme pour toutes les addictions, hein, si vous avez vous-même vécu une addiction ou si vous avez des proches qui en ont vécu, au départ, il y a une décision initiale qui est la vôtre. Je vais prendre, voilà, je sais pas, une petite pilule de drogue ou je vais prendre plein de tasses de café à la suite pour que ce soit moins grave. Mais à chaque fois, il y a une décision au départ et puis ensuite, il y a quelque chose qui se met en place à l'intérieur qui fait que je ne suis plus libre de ma décision. Même quand je veux arrêter, par exemple, voilà, la cigarette, je peux pas parce qu'il y a ce côté dépendant qui s'est mis en œuvre. Et avec le péché, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une décision, mais plus on va avancer et plus on va se retrouver prisonnier, esclave du péché, et on n'a plus la possibilité de se libérer. Là aussi, Jésus vient nous libérer de cet esclavage-là. Puis le troisième point, qui peut paraître un peu paradoxal, mais on peut aussi être esclave de Dieu. Et la Bible nous dit ça aussi, hein. Elle nous dit que maintenant, affranchi du péché dont on était esclave, on est devenu esclave de Dieu et le fruit qu'on porte, c'est une vie sainte et on aboutit au résultat de la vie éternelle. Alors, Paul, dans ce chapitre 6 de Romains, il va prendre des précautions. Il va dire, écoutez, je vous parle de ce mot esclave, et trois versets avant, verset 19, il dit, mais par contre, si je vous parle ici, c'est vraiment à la manière d'un être humain, et c'est parce que vous êtes faible naturellement. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre avec une image que vous pouvez saisir, et cette image, c'est celle de l'esclave. C'est juste pour dire que même si Paul va utiliser souvent ce mot d'esclave dans sa relation avec Dieu, il va se présenter comme l'esclave, le serviteur de Dieu. Pour lui, c'était pas la finalité de la révélation, en fait, de qui on est en Dieu. Et oui, bien sûr, on est des serviteurs de Dieu, on est au service de Dieu, Dieu est notre maître, et c'est quelque chose qui est vrai, mais c'est pas la seule chose qu'on est par rapport à Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une réunion de groupe de jeunes, puis il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a commencé à prier, et ça m'a vraiment marqué. Elle priait justement, cette personne, ça. Elle disait, Seigneur, on est tes esclaves, fais de nous ce que tu veux. On n'est pas digne de toi, mais utilise-nous quand même. Et en fait, on sentait la souffrance dans son cœur alors qu'elle priait ça. Et c'était révélateur de l'image qu'elle avait d'elle-même par rapport à Dieu. Elle se considérait vraiment comme quelque chose qui avait aucune valeur. Elle se considérait comme quelque chose qui était toléré, mais sûrement pas désiré par Dieu. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on doit changer. Et ça va nous amener au deuxième point. À la dimension de fils. Donc, en esclave, on était prisonnier. En tant que fils, on va être confiné. Vous allez comprendre pourquoi. On va lire ce verset dans Romains au chapitre 8, au verset 15, qui est la fondation de cette dimension de fils et de fille de Dieu. Comment on est adopté en Dieu? En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire père. Alors, on va regarder ensemble quelques caractéristiques de cette dimension de fils. Qu'est-ce qui fait que le fils est différent de l'esclave? Et la première chose que j'ai trouvée dans la Bible, c'est que le fils ou la fille de Dieu demeure toujours dans la maison de Dieu. On peut lire ça toujours dans Jean au chapitre 8, où on voit que l'esclave n'est pas toujours dans la maison, mais le fils demeure toujours dans la maison. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est comme si le fils ou la fille de Dieu, il est confiné avec son père. Et ça, c'est une étape qu'on va vivre à certains moments dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu va nous prendre justement de l'esclavage, quoi que ce soit qui nous maintienne esclaves. Et il va nous faire entrer en fait dans cette proximité, dans cette relation, dans cette identité de fils et de fille de Dieu. Où là, on va pas être dans la productivité. Il y a un verset qui décrit bien ce côté confiné du père et du fils. C'est dans Jean toujours, en fait, quand Jésus va dire « Toi, quand tu veux jeûner et prier, va dans le lieu secret, ferme la porte de ta chambre, et là, ton père qui est dans le lieu secret te le rendra. » Et il y a cet appel en ce moment, c'est drôle, hein, cette étape qu'on est en train de vivre, ou d'être enfermé chez nous, parce qu'il y a cet appel aussi du cœur de Dieu à revenir à notre identité de fils et de fille de Dieu, où on n'est pas défini par ce qu'on peut produire, par ce qu'on peut faire pour Dieu, par notre activité professionnelle, par l'image qu'on peut donner dans la société ou dans l'église, où ce qui nous définit, c'est juste qu'on est des fils et des filles de Dieu et qu'on est ensemble en relation avec notre Père Céleste. Ça, c'est quelque chose qui va être cyclique dans nos vies. Moi, j'ai eu une révélation de cette dimension de l'adoption de Dieu pour moi quand j'avais 25-26 ans. C'est à peu près à la même époque où j'avais rencontré Olivier Sarkis. Alors, les deux n'avaient pas de lien direct. C'est pas par Olivier que j'ai rencontré l'esprit d'adoption, mais on avait beaucoup échangé sur ça quand on s'est rencontrés, parce que c'est quelque chose qui nous travaillait tous les deux. Et cette identité de fils de Dieu, de fille de Dieu, c'est quelque chose qui va bouleverser notre état intérieur, qui va bouleverser nos émotions, nos motivations et tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est essentiel qu'on puisse vivre ça dans notre relation avec Dieu. J'aime bien cet aspect de demeurer toujours dans la maison, parce que dans le psaume 27, on peut voir David qui va prier, qui va dire à Dieu, je t'ai présenté un seul souhait qui me tient vraiment à cœur, je veux habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Et concrètement, ce que David disait dans les psaumes, c'est je veux être ton fils, je veux faire partie de ta maison, je veux pas être là juste pour faire des trucs et repartir, je veux habiter avec toi. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. On a célébré la Pâque il y a quelques jours. Et en fait, le sacrifice que Jésus a accompli nous ouvre les portes de la maison de Dieu. On fait partie intégrante de la maison de Dieu. On n'a plus à se battre, on n'a plus à essayer de s'efforcer d'atteindre un certain standard des exigences de Dieu, parce qu'on fait partie de sa maison. En tant que fils et filles de Dieu, on est à l'école aussi. Dans Galates au chapitre 4, on peut le lire, on peut dire qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, même s'il est le maître de tout. Mais il va être sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je crois que ce temps qu'on est en train de vivre, c'est un temps d'école aussi, un temps où Dieu est en train de nous former. Il nous ramène aux choses essentielles, à la relation avec lui, à la relation avec nos familles et nos proches. Il nous ramène finalement aux choses qui sont primordiales dans la vie qu'on a à vivre. Et c'est un temps aussi où le Seigneur forme nos cœurs, où il nous apprend à ce que c'est de vivre avec lui. Et ça, c'est des étapes qu'on va avoir aussi. Il y a des moments dans nos vies qui vont être frustrants parce qu'on va avoir l'impression que rien ne se passe, mais c'est des moments qui sont essentiels parce que Dieu est en train de nous former comme ses fils et ses filles. Il est en train de nous former et de former la personne de Jésus à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et puis le dernier point, c'est un paradoxe là aussi, c'est que la liberté du fils, c'est sa dépendance par rapport au père. Dans le monde dans lequel on vit, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, d'être soumis à personne, de prendre nous-mêmes nos propres décisions. Mais dans la liberté biblique, telle qu'elle nous est présentée par Jésus, plus tu es libre et plus tu es dépendant de ton Père céleste. Et on peut lire ça dans Jean au chapitre 5, où c'est Jésus qui parle et nous dit « Je vous l'assure, le Fils, donc c'est-à-dire lui-même, Jésus ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Des fois, on ne comprend pas l'attitude de Jésus dans les évangiles, ou pourquoi est-ce qu'il va guérir un tel et pas un tel, pourquoi est-ce qu'il va dire telle phrase à tel moment. Et on peut trouver un élément de réponse dans ce verset. Jésus était toujours en train d'essayer de faire ce que le Père était en train de faire. Et nous aussi, en fait, on est appelés à développer cette dépendance par rapport à notre Père céleste. Et c'est ça qui va nous faire grandir de cette étape d'enfant à cette étape d'héritier. Je pense que ça a été une grande découverte pour l'Église ces dernières années de retrouver ce passage de l'esclave au fils. Et c'est quelque chose qu'on avait peut-être beaucoup perdu. Moi, j'ai grandi avec mes parents et mes grands-parents où la chose majeure de leur relation avec Dieu, c'est qu'ils étaient esclaves. Il fallait servir, 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 donner ta vie, donner ton temps, donner ton argent, tout donner, sacrifier ta famille pour Dieu. Parce que c'était comme ça, on était ses esclaves, on était ses serviteurs. Il y a beaucoup de drames qui se sont produits dans les familles, dans les vies à cause de ça. Il y a eu une restauration il y a peut-être 20 ans, un peu plus, de cette identité de fils. Et j'ai l'impression qu'il y a une troisième et une dernière étape qui doit être restaurée, qui est importante, c'est cette dimension d'héritier. Donc quand on était esclave, on était prisonnier, c'est-à-dire qu'on restait au même endroit, mais pas parce qu'on avait choisi. Quand on est enfant, on est confiné, c'est-à-dire qu'on reste au même endroit dans la maison du Père, mais parce qu'on a choisi d'y vivre, que c'est notre maison. Et quand on est héritier, c'est le moment où on a grandi, on est devenu suffisamment mature pour être envoyé par notre Père céleste dans le monde comme représentant de qui il est. Et donc on lit ça dans Romains au chapitre 8 au verset 17, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et donc co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors, c'est bien héritier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous attend, il y a un héritage. Donc, qu'est-ce que c'est cet héritage? Dans 1 Pierre, on peut lire que Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux, nous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Il y a un héritage qui est prévu pour moi, qui est prévu pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va passer toute notre vie à préparer. En fait, quelque part, toute notre vie, c'est une école pour le moment où on va être prêt à endosser pleinement cet héritage que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Et en attendant, le Seigneur nous a donné quand même un acompte de cet héritage, une première partie. Et cette première partie, on la découvre dans Éphésiens, où on voit que le Saint-Esprit est l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Le Saint-Esprit dont on va célébrer le fait qu'il a été répandu sur le monde et sur l'Église à la Pentecôte dans quelques semaines, c'est l'acompte de notre héritage. C'est ce qui nous permet d'entrer dans cette phase, dans cette identité d'héritier de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un héritier par rapport à un fils? C'est quoi qui est différent? Moi, j'ai un petit bonhomme de 3 ans. C'est mon fils, c'est mon enfant, clairement. On pourrait dire que c'est mon héritier, mais je ne vais pas lui donner les clés de la voiture pour qu'il aille l'utiliser dehors. Je ne vais pas lui donner 500 euros en lui disant qu'il fait ce qu'il veut avec, parce qu'il a 3 ans. Donc, il ne saura pas démarrer la voiture, heureusement, mais par contre, il va sûrement déchirer mes 500 euros si j'en avais. Et puis, déjà, en fait, avec ses propres affaires, des fois, il les casse. Donc, je ne vais pas, en plus, lui confier toutes les choses que moi, j'ai envie de lui transmettre plus tard. Il va falloir une certaine période de temps avant que je puisse le considérer vraiment comme héritier, c'est-à-dire prendre tout ce que j'aurais pu gagner au travers de ma vie et lui transmettre et dire, ben, c'est pour toi, tu es mon fils, tu es mon héritier, prends ce que j'ai et puis va plus loin. Donc nous aussi c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est fils et filles de Dieu, ça c'est établi, mais pour devenir héritier, il faut qu'on se mette à l'école de Dieu et qu'on puisse entrer en fait dans cette croissance, dans cette maturité chrétienne pour pouvoir vivre pleinement cette dimension. Alors, 3 petites facettes d'un héritier, qu'est-ce qu'il fait ? L'héritier représente celui dont il est l'image. C'est un verset qu'on aime beaucoup dans la Genèse quand on voit la création du monde. C'est que Dieu crée les hommes pour qu'ils soient son image. Il les crée à l'image de Dieu, hommes et femmes. Alors, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais l'image de Dieu, c'est donc bien hommes et femmes ensemble. Bienvenue mes sœurs, on est heureux de vous avoir avec nous. Donc Dieu crée les hommes pour qu'ils soient son image. C'est même la raison pour laquelle quand le peuple d'Israël va commencer à adorer Dieu, Dieu va dire surtout ne faites pas d'image taillée, ne faites pas d'image de Dieu. Au-delà de l'idolâtrie, en fait, la raison principale, c'est qu'il y a déjà une image de Dieu sur terre et c'est toi et c'est moi. Nous sommes l'image de Dieu sur terre. Quand quelqu'un veut savoir comment est Dieu, eh ben, il peut regarder ta vie et peut regarder ma vie et il peut avoir une idée de qui Dieu est. Donc, ça, c'est dans le côté idéal, bien sûr, parce que ma vie, souvent, c'est pas forcément Dieu que ça montre. Mais il y a une image de Dieu en moi et en toi qui est destinée à être révélée au monde. Et c'est ça que je porte et que tu portes en tant qu'héritier. Ce qui est intéressant, c'est que le Dieu qui a créé tous les flocons de neige différents les uns des autres, t'a créé différent de moi. Il a placé en toi une image, une facette de lui qui n'est pas la même que la mienne. Et donc, c'est une bonne question pour nous en tant qu'héritier. Quelle est la facette de Dieu, l'image de Dieu particulière que ta vie va raconter et que ta vie va révéler? Et il y a une transition, un changement. Quand on était fils et fille de Dieu, on habitait dans la maison de Dieu tous les jours de notre vie. Quand on va devenir héritier, il y a un changement, c'est-à-dire que nous devenons la maison de Dieu. Ça veut dire que partout où Sam il est, où je suis, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, ça fait un petit peu schizo. Partout où je suis la maison de Dieu. Dieu est présent avec moi partout où je vais. Avant, c'était moi qui habitais dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie, et maintenant, c'est la maison de Dieu qui habite en moi tous les jours de ma vie. Donc, je représente le Dieu qui m'a fait à son image partout où je vais, dans mon travail, dans mes relations, quand je vais faire mes courses avec mon masque. Partout où je suis, je représente le Dieu qui m'a créé à son image. L'héritier représente celui qu'il a créé, mais il représente aussi la famille dont il fait partie. Éphésiens nous dit qu'on n'est plus des étrangers ou des résidents temporaires, qu'on fait partie, on est concitoyens des membres du peuple de Dieu et on fait partie de la famille de Dieu. La vie avec Dieu, c'est un sport qui se joue en équipe. En tant qu'héritier, je ne suis pas le seul représentant, je joue aussi avec tous ceux qui font partie de ce corps de Christ, et en particulier avec les membres de la famille de Dieu avec qui je partage quelque chose localement. C'est eux qui sont ma famille peut-être la plus proche, et c'est avec eux que je suis héritier du Père Céleste et que je vais représenter qui Dieu est. En ce moment, je pense que c'est vraiment un moment où Dieu nous permet de réaliser tout à nouveau l'importance de l'Église. Des fois, on a l'impression qu'on a suffisamment bourlingué, vécu, entendu des choses et qu'on pourrait facilement se passer de nos frères et sœurs dans la foi, qui des fois sont plus des causes de soucis pour nous que vraiment des personnes qui nous aident à avancer avec Dieu. Mais c'est pas vrai. En fait, on a besoin les uns des autres parce que c'est ensemble qu'on peut représenter notre Père Céleste. J'aime bien, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé quand j'ai quand j'attendais mon fils. Il y a quelqu'un avec qui je discutais, puis je lui disais, mais j'ai un petit peu peur, tu vois. Je sais que j'ai des choses que Dieu m'a confiées, j'ai envie de pouvoir les amener jusqu'au bout, en fait. Et je voudrais pas que le fait d'avoir des enfants, finalement, ça empêche que je puisse aller au bout de ce que le Seigneur m'a confié. Et la personne avec qui je discutais, elle m'a dit, mais tu sais, ton fils, il va prendre ce qui est dans ton cœur et il va l'emmener plus loin. Et donc finalement, ce que Dieu va t'a confié vraiment, tu vas pouvoir le transmettre, tu vas pouvoir transmettre le bâton et tes enfants vont l'emmener plus loin. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aussi avec notre Père Céleste. C'est-à-dire que Dieu nous tend un bâton et nous dit maintenant, c'est ton tour. Comment est-ce que tu vas représenter cette famille dont tu fais partie? Et puis le dernier point, et puis on arrive au bout, on représente le royaume dont on fait partie aussi. Dans 2 Corinthiens, on peut lire « Nous faisons fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Tu es un ambassadeur, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu partout où je suis. Je porte un message de la part de Dieu pour le reste du monde. Je porte un message de Dieu pour mes frères et sœurs de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas juste que porteur d'un message, je fais partie du message. Et c'est pour ça que ben, si c'est Olivier ou Mathieu ou quelqu'un d'autre qui vous apporte un message de la part de Dieu, ça va toujours être coloré avec leur personnalité, avec leur vécu, avec leur histoire de la part de Dieu. Et chacun d'entre nous, on fait partie du message que Dieu essaie d'envoyer au travers de nous, à ceux qui nous entourent. Donc c'est un appel en fait ce partage à voir notre vie chrétienne vraiment comme une occasion de croissance et puis se rendre compte que dans notre vie on aura besoin à certains moments de repasser par ces trois étapes. La dimension de réaliser que Dieu est notre Seigneur et notre Maître. C'est pas juste notre copain, on lui tape pas sur le ventre comme si c'était « Ah, oh, Seigneur, je t'aime trop, t'es trop sympa !» C'est le Dieu de l'univers, c'est le Maître absolu, c'est le Roi des Rois. Et il faut qu'on puisse avoir cette crainte de qui Dieu est, cette crainte de sa sainteté. Et puis, on va devoir revenir régulièrement. Moi, je fais cet aller-retour cyclique depuis que j'ai fait cette découverte de l'esprit d'adoption à cette identité de fils. Il n'y a rien qui dépasse ça. Tout ce que je pourrais produire, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais essayer de faire pour gagner l'approbation de Dieu ne sert à rien parce que je suis fils à cause de ce que Jésus a fait. Je suis un enfant de Dieu et quoi que je fasse après ça, je reste en fait cet enfant que Dieu aime et pour lequel Dieu a de l'affection. Donc, j'ai rien à faire pour la gagner. Et puis, cette dernière étape de l'héritage, ça, c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup. Je veux pas juste vivre ma vie tranquillement, et puis Dieu m'aime, et puis j'aime Dieu, et tout va bien. Je veux laisser une marque de la part de celui qui m'a créé. Je veux laisser une marque dans la société de la part de la famille que je représente et de la part du royaume dont je fais partie. Alors, si ça vous va, je vais juste lire un verset en conclusion, et puis je vais prier. C'est Paul qui dit ça dans Actes. Il dit « Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu » et à sa parole de grâce. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Dieu a préparé un héritage pour toi et pour moi, et il est capable de te rendre prêt à entrer dans cet héritage. Et c'est pas juste quand on sera réuni avec lui dans la vie éternelle, cet héritage, il commence maintenant. On a chacun reçu l'acompte du Saint-Esprit, et donc on est envoyé dans ce monde pour être les héritiers, les ambassadeurs, les représentants de la famille dont on fait partie. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as accompli à la croix. On a célébré ça à la Pâque, il y a quelques jours. On a célébré ton sacrifice qui nous a ouvert les portes de la maison de Dieu. On n'est plus juste des esclaves, on est tes fils et tes filles. On est bienvenus dans la maison du Père et on peut y vivre tous les jours de notre vie. Et Seigneur, on veut prier que dans cette période de confinement, on puisse redécouvrir notre identité de fils et de fille de Dieu et qu'on puisse à nouveau reposer ces fondations de notre identité en toi. Seigneur, je veux prier en particulier pour les frères et sœurs ce matin qui sont travaillés par cette identité de fils, qui ont besoin à nouveau en fait d'être baptisés dans cet esprit d'adoption. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes déverser cet esprit d'adoption sur ceux qui en ont besoin ce matin. Et je veux m'inclure dans cette prière. J'ai besoin d'être touché à nouveau par ton esprit d'adoption. Viens me visiter, viens nous visiter. Rends-nous cette identité de fils et de fille de Dieu, que nous puissions crier « Abba Père ». Et Seigneur, on veut prier aussi pour cette transition d'être des enfants de Dieu à devenir les héritiers de Dieu. Seigneur, on veut qu'au travers de nos vies, nous voulons pouvoir être des représentants, nous voulons pouvoir être des ambassadeurs, des personnes qui représentent celui qui nous a créés. Seigneur, je prie que tu amènes à s'exprimer cette image que tu as placée en nous de qui tu es, cette facette particulière que tu as placée en chacun de nous, qu'elle puisse briller, qu'elle puisse refléter la magnificence de qui tu es et qu'elle puisse attirer, Seigneur, ceux qui nous entourent vers toi. Et je te prie, Seigneur Jésus, vraiment pour la famille que nous représentons. Je te prie pour cette famille locale, cette église locale aussi de Connect à Montélimar. Je te prie pour chacun d'entre eux dans cette période qui est difficile, où on est loin les uns des autres, où on ne peut pas se prendre dans les bras. Seigneur, viens resserrer les liens, viens resserrer les rangs et viens affermir cette famille locale, Seigneur, en toi. Et puis je te prie, Seigneur, pour cette représentation de ton royaume aussi que nous sommes, que tu puisses nous donner d'avoir un message de ta part qui va pouvoir bouleverser aussi notre monde et notre société. Seigneur, que la magnificence de ce que tu as fait, la gloire de ce que tu as accompli au travers de Jésus puisse être proclamée dans notre pays, Seigneur, et que ton royaume puisse avancer. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Peut-être une dernière fois on peut chanter « Nous sommes à toi ». Abba Père, nous sommes à toi. Abba Père, nous sommes à toi. Abba Père, nous sommes à toi. Abba Père, nous sommes à toi.